chef de file des soins infirmiers, assurant la sauvegarde des hautes normes de qualité, cherchant à promouvoir l'enseignement, la recherche, l'encadrement, le soutien et le développement des compétences et de l'excellence clinique. Nous sommes la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu. Bienvenue à Savoir et Stéthoscope.
Donc, bienvenue à cet épisode inédit de 2025 du balado Savoir et Stéthoscope. Alors aujourd'hui, notre balado va se distinguer de notre contenu habituel. On va s'inspirer du style True Crime et on a opté donc pour vous présenter une histoire fictive, mais qui va être bâtie à partir de faits réels et qu'on va vous présenter sous un angle plus analytique. Alors, cette approche originale est née d'un échange avec M. Frédéric Grondin, qui est directeur adjoint à la qualité et à la sécurité des soins et services au sein de notre établissement, que nous avons d'ailleurs le plaisir d'accueillir avec nous en studio, accompagné de Mme Nadia Leboeuf, qui est conseillère cadre à la qualité et à la sécurité des soins. Donc, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Donc, il va être important de vous avertir que l'épisode d'aujourd'hui est une œuvre de fiction qui est inspirée de faits réels, mais sans référence directe à une personne, à un lieu ou une organisation. Alors, le but du balado n'est pas d'entamer une chasse aux coupables, mais d'assurer l'exploration de systèmes complexes permettant de répondre notamment aux questions « qu'est-ce qui peut mener à ce type d'événement » et « comment collectivement, à titre de professionnel et d'organisation, peut-on apprendre de cet événement dans un processus d'amélioration continue ». Alors, Savoir et Stéthoscope, ça commence maintenant.
Ma grand-mère. Ma grand-mère est l'incarnation de la fierté et de l'organisation. À 80 ans, elle est autonome, pleine d'énergie et de vitalité. Mais ce jour-là, tout a basculé. En revenant de l'épicerie, un geste banal dans son quotidien, elle a chuté dans l'escalier qui mène à son condo. Son condo situé au deuxième étage du quadruplex où elle vit seule depuis le décès de mon grand-père, il y a déjà 5 ans. Le diagnostic est tombé rapidement à son arrivée à l'urgence. Fracture de la hanche. Ah, elle a bien sûr accepté sans hésiter la chirurgie proposée, mais la suite s'est avérée éprouvante. La douleur, l'insomnie, les ajustements successifs de médication. Près de 2 semaines ont passé avant que le médecin n'autorise son congé pour un retour à domicile. Vous me direz qu'il s'agit d'une histoire assez commune pour une personne âgée. Et pourtant. Ce matin, j'ai reçu un appel de Mme Turcotte, la voisine de ma grand-mère. Elle a de nouveau dû être transportée d'urgence à l'hôpital. Nous ignorions même qu'elle était revenue chez elle il y a 2 jours. Heureusement, Mme Turcotte, qui garde toujours un œil sur les allées et venues dans les condos, s'est inquiétée de ne pas avoir eu de nouvelles depuis plus de 24 heures. C'est ainsi qu'elle a découvert ma grand-mère, inconsciente, allongée au sol entre sa chambre et la salle de bain. Nous sommes maintenant à son chevet, dans l'attente de rencontrer le médecin afin de discuter de soins de confort.
Alors, ce que vous venez d'entendre et que vous entendrez à différents moments dans cet épisode, c'est la petite fille de notre dame de 80 ans qui, de prime abord, semble s'être retrouvée donc au sol chez elle 2 jours après son congé de l'hôpital. Et bien que fictive, cette histoire-là reflète malheureusement une réalité qui est trop fréquente dans probablement plusieurs établissements là, de santé au Québec. Et ça vient mettre en lumière là, les failles préoccupantes qu'il peut y avoir en matière de transmission d'informations essentielles liées au congé. Donc, comment une usagère de 80 ans qui a été hospitalisée pendant 2 semaines pour une fracture de hanche a pu recevoir son congé sans que sa famille en soit adéquatement informée et sans préparation concertée du retour à domicile ni l'octroi opportun là, de services requis? Alors aujourd'hui, on va analyser cette histoire-là en accent sur la qualité et la sécurité des soins et services. Quels sont les facteurs contributifs à l'événement, les processus, l'établissement qui ont été impliqués ou carrément pas? Et quels risques auraient pu être détectés et évités? Quelles sont les mesures préventives, donc les filets de sécurité qu'on aurait pu mettre en place en lien avec les différents risques sont identifiés? Alors, Nadia, à titre de conseillère cadre à la qualité et à la sécurité, donc des soins, je vais te laisser débuter cette analyse-là.
En effet, Julie,
Il s'agit d'une histoire fictive, mais tristement inspirée de faits bien réels. Aujourd'hui, nous l'utiliserons comme point d'ancrage en nous appuyant sur l'un des 7 facteurs essentiels de la sécurité des soins. L'apprentissage. Afin de plonger dans ce récit et de mettre en lumière toute la complexité d'un système où vont s'entremêler des dimensions à la fois humaines, communicationnelles et organisationnelles. Puisque ce balado s'adresse principalement aux professionnels en soins infirmiers, nous porterons une attention plus particulière à la responsabilité professionnelle infirmière qui joue un rôle souvent pivot au sein de l'équipe interdisciplinaire. Que ce soit pour la préparation du congé dès le début de l'hospitalisation, des communications au sein de l'équipe, mais aussi avec les partenaires externes lors du transfert d'informations au point de transition, aux communications aussi avec les usagers, sans oublier leurs proches, l'infirmière est quasi omniprésente à tous les niveaux.
Il y a tout juste une semaine, nous étions aux côtés de grand-maman au moment où elle a rendu son dernier souffle. On nous a dit qu'elle était décédée des suites de sa chute, ou peut-être des causes qui l'ont provoquée, on ne sait pas encore. Le coroner a été avisé. Il devrait aider à mieux comprendre ce qui s'est passé. Ce que nous savons pour le moment, c'est qu'elle serait retournée chez elle en taxi lors de sa première hospitalisation suite à sa fracture de hanche. Elle qui ne voulait jamais nous déranger. On aurait dû être appelés. Quant à sa deuxième chute, qui l'a de nouveau ramenée à l'hôpital, il semble qu'elle se serait violemment frappée la tête en tombant, pour ensuite rester au sol pendant de longues heures, peut-être même presque une journée entière. On préfère pas y penser. Quand elle a franchi les portes de l'urgence pour cette deuxième fois, on nous a dit que son corps portait déjà des signes de ses derniers moments. Une déshydratation sévère, des plaies de pression profondes. Signe qu'elle avait attendu bien trop longtemps seule, sans secours. Et puis un détail, les ambulanciers auraient trouvé sur le comptoir, près de la porte d'entrée, les médicaments livrés par sa pharmacie. Ma grand-mère, si méticuleuse, si ordonnée, n'aurait jamais laissé traîner ces choses. Pourquoi aussi n'avait-elle pas pris sa médication?
Donc, la petite fille de la dame vient de nous indiquer que le coroner aiderait à faire la lumière sur cette histoire-là. Alors moi, je veux comprendre pourquoi que le coroner serait impliqué, Nadia.
Il faut savoir que c'est le bureau du coroner qui fournit les critères pour déterminer si un avis au coroner doit être fait. De façon générale, le signalement au coroner est fait par un médecin ou un agent de la paix. Mais si une personne a des motifs raisonnables de croire qu'il s'agirait d'un décès violent, obscur, ou qu'il serait survenu par suite de négligence et qui aurait échappé à l'attention d'un médecin ou des policiers, elle peut le signaler au bureau du coroner. Le coroner intervient majoritairement suivant un décès lorsque les causes ou les circonstances d'un décès sont inconnues. Lorsque le coroner est avisé d'un tel décès, il entreprend une investigation. Durant ce processus, il va chercher à établir l'identité du défunt ainsi que la date, le lieu, mais aussi les causes et les circonstances du décès. Le coroner devient temporairement responsable du corps de la personne décédée et demande, s'il y a lieu, des expertises scientifiques telles que des autopsies, analyses toxicologiques. Selon la loi sur les coroners, il peut aussi exiger d'avoir accès à tout document nécessaire à l'enquête sur les causes et circonstances sans nécessité de présenter un mandat judiciaire. Dans certaines situations, le coroner en chef peut aussi ordonner la tenue d'une enquête publique. S'il le juge opportun, il peut faire des recommandations visant à éviter les décès semblables. Le rapport du coroner est public. Il est disponible sur le site Internet du bureau du coroner et est accessible à toute personne qui en fait la demande.
Donc, est-ce qu'on pourrait jusqu'à dire que le coroner peut se prononcer, par exemple, sur la responsabilité criminelle d'une personne? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Frédéric?
Bien, ta question est très pertinente. Puis, la réponse que je donnerais à ça, c'est qu'il est important de comprendre que la loi sur les coroners interdit à ces derniers de se prononcer sur la responsabilité civile ou criminelle. C'est pas ça l'objectif d'avoir un coroner dans un dossier. Leur mandat n'est pas de rechercher des coupables, tout comme nous aujourd'hui. Le but premier du travail du coroner, c'est d'avant tout d'assurer la protection du public, de préserver la vie. L'ensemble des recommandations qu'un coroner va faire dans un dossier va toujours aller vers cet objectif-là. Comment il va assurer la protection du public? Bien, en informant la société de façon à prévenir et favoriser la sécurité publique. Donc, en plus de procéder, lorsque nécessaire, à une autopsie du défunt. Ce n'est pas le coroner qui va faire l'autopsie, mais il peut demander des autopsies. Le coroner va tenter de mettre en lumière les différents éléments du système qui ont pu contribuer au décès, qu'ils soient humains, organisationnels, liés aux pratiques et aux procédures qui est en vigueur au moment où l'usager a eu ou n'a pas reçu des soins. Afin, puis tout ça, c'est dans l'objectif de formuler au besoin des recommandations qui vont éviter à ce que de tels événements se reproduisent.
Donc, mais de ce que je sais, c'est que de votre côté, à la DQEPP, donc à la direction de la qualité, vous faites quand même des investigations.
Oui, tu as totalement raison. Puis, même si on fait nos investigations, le coroner peut quand même faire ces investigations-là. Donc, on fonctionne en mode parallèle pour les deux types d'investigations. On pourrait arriver à des recommandations qui sont similaires ou à des éléments que le coroner pourrait avoir vus qui sont différents, qu'on n'a pas captés.
Et sachez que le sujet d'aujourd'hui m'a d'ailleurs donné l'idée d'inviter éventuellement un coroner avec nous en studio, donc peut-être une idée de projet pour le balado en 2026. Et je crois d'ailleurs que ça pourrait intéresser certains de nos auditeurs et auditrices, car saviez-vous que depuis 2022, les infirmières qui ont un deuxième cycle universitaire en sciences infirmières ou dans un autre domaine pertinent, là, comme moi avec une maîtrise en droit et politique de la santé, on peut devenir coroner là, selon le règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personne apte à être nommée coroner.
On a finalement eu un retour de l'hôpital et du coroner sur ce qui est arrivé à ma grand-mère. On a comme un peu l'impression qu'une suite d'événements s'est produite comme si les maillons d'une chaîne s'étaient défaits les uns après les autres. Il semblerait que son retour à la maison s'est fait vite, peut-être même un peu trop. En fait, c'est que tout n'était pas vraiment prêt pour qu'elle puisse être en sécurité et bien entourée. Elle aurait eu besoin que son chez-soi soit adapté pour l'aider à bouger, mais c'était pas encore fait quand elle est rentrée.
Donc, la petite fille de Notre-Dame là, semble nommer que le retour à la maison a été rapide, alors qu'il s'agissait quand même d'une hospitalisation de 2 semaines là, pour une fracture de hanche. Là. Est-ce que c'est normal, là, entre guillemets, d'avoir donné congé à une dame de 80 ans dans ce contexte-là? Qu'est-ce que tu en penses, Frédéric?
Bien, c'est sûr que quand on regarde la durée de séjour de cette dame-là, on peut dire que c'est quand même adéquat si on tient compte du volet purement quantitatif. Donc, 2 semaines pour une hospitalisation de ce genre-là, ça semble adéquat. Mais il faut quand même faire attention avant de porter un jugement sur une durée de séjour et se baser seulement sur la durée moyenne de séjour parce que chaque cas est unique. Une personne plus âgée avec des facteurs de risque qui seraient différents pour avoir une durée de séjour qui pourrait être allongée ou un patient plus jeune avec moins de facteurs de risque pour avoir une durée de séjour qui serait moindre. Donc, c'est une moyenne.
On a beaucoup d'indicateurs de performance, justement, dans notre système actuel, comme la durée moyenne de séjour qu'on vient de parler, la fluidité des soins aussi pour améliorer l'accessibilité aux services. Puis je crois quand même qu'il y a des objectifs qui sont tout à fait louables avec ces indicateurs-là.
Pour les usagers, chez les personnes âgées notamment, un retour rapide, mais bien planifié à domicile, présente plusieurs avantages. Ça permet à ces personnes-là de réduire, par exemple, les risques de déconditionnement, de délirium, d'infection nosocomiale ou encore des lésions de pression. Les protocoles de récupération améliorés après une chirurgie en offrent un bon exemple. Il y a plusieurs études qui ont développé des protocoles pour voir comment on pouvait améliorer la durée moyenne de séjour des patients qui ont subi une chirurgie. Puis lorsque tous les éléments sont en place, lorsque la trajectoire de soins est soigneusement planifiée, la préparation préopératoire amorcée plusieurs semaines avant l'intervention, jusqu'au suivi dans les jours et semaines qui suivent, ça contribue à une meilleure récupération et un retour à domicile qui est plus sécuritaire. Pour le système de soins, le fait de réduire les durées de séjour, lorsque c'est cliniquement justifié, ça permet de libérer des lits, ça permet de diminuer des coûts, d'accueillir davantage de patients et d'éviter, par exemple, les temps d'attente sur civière à l'urgence. Pour la population, au niveau de l'accessibilité, des séjours plus courts, sans compromettre la qualité, ça permet de réduire des délais d'attente, ça facilite des admissions, ça améliore aussi la disponibilité des services. La notion de fluidité vise à éviter les obstacles, les délais inutiles, en recentrant l'action sur la pertinence des soins.
Mais là, on vient de parler quand même qu'il y avait des côtés positifs à la recherche des indicateurs, mais il doit quand même y avoir certaines limites en lien avec ça.
Effectivement, il y a des limites puis des risques liés à l'atteinte des objectifs au niveau de des visées organisationnelles. Ces objectifs en matière de fluidité ou d'accessibilité des soins peuvent avoir des effets pervers et c'est là toute l'importance de bien comprendre et surtout d'en être conscient. La pression exercée sur les équipes de soins pour donner congé rapidement peut mener à des sorties prématurées. Ça ne tient pas toujours compte des besoins réels de la personne ni du temps requis pour bien préparer le retour à domicile. Ça peut même compromettre la sécurité et entraîner des complications ou des réadmissions, comme dans le cas de notre histoire. Focaliser uniquement sur des facteurs cliniques de la personne, ça risque de négliger les déterminants sociaux, tels que le logement, le soutien, le transport ou les conditions socio-économiques. Ou encore de passer sous silence les comorbidités qui influencent pourtant grandement la réussite du congé. On le rappelle, chaque cas est unique. Viser l'indicateur de durée de séjour au détriment de la coordination des soins peut faire perdre de vue l'importance de la préparation précoce du congé. Dès l'admission, c'est important de réfléchir aux besoins de la personne pour prévoir son retour à domicile. L'infirmière, qui est souvent bien placée pour évaluer ses besoins, doit collaborer étroitement avec l'usager, ses proches et l'équipe interdisciplinaire. Au-delà de la réduction de la durée de séjour, il faut garantir la disponibilité des soins post-hospitaliers, communautaires et de soutien social. Ces soins ont pour but d'assurer une transition sécuritaire et d'éviter la réadmission. Et cela suppose, bien entendu, l'implication de tous les cliniciens, les usagers, leurs proches, et de la communauté dans la fixation des cibles et des objectifs. La mise en place de protocoles de soins intégrés, de plans de soins de sortie élaborés dès l'admission et un véritable travail multidisciplinaire est alors nécessaire.
Ouais, donc j'ajouterais que l'infirmière a aussi un rôle d'advocatie. Si elle constate un doute important sur la sécurité du congé, un doute qui peut être aussi rapporté par l'usager ou son proche, elle a le devoir de le signaler et de proposer des solutions adaptées, comme impliquer la travailleuse sociale, l'ergothérapeute, la nutritionniste, considérer davantage la famille dans la préparation du congé.
Puis, à un moment donné, lors d'un échange un peu informel, Nadia, tu me donnais un exemple de situation, justement un constat que tu avais déjà fait.
Oui, effectivement, lors d'analyse d'événements sentinelles suivant le congé, par exemple, certains professionnels, dont les infirmières, nous ont mentionné qu'elles avaient un malaise avec le congé donné. L'infirmière doit s'assurer de participer aux discussions de planification du congé. Elle doit faire part de ses préoccupations en lien avec la sécurité des usagers et surtout le noter au dossier.
Puis elle ne peut pas juste arrêter sur « j'ai un doute, mais j'ai pas osé le nommer ». D'ailleurs, saviez-vous qu'au niveau du code de déontologie des infirmières et infirmiers, on rappelle clairement ces responsabilités-là, notamment à l'article 42 qui dit que l'infirmière et l'infirmier doivent prendre les moyens raisonnables pour assurer la sécurité des clients, notamment en avisant les instances appropriées. Et à l'article 44, en matière de négligence, donc on dit que pour éviter toute négligence dans les soins, elle doit procéder à l'évaluation requise, intervenir promptement, mais aussi assurer la surveillance clinique et le suivi nécessaire en garantissant la continuité des soins et des services.
La madame de l'hôpital nous a aussi dit que certaines informations n'ont pas circulé comme il fallait. Que ce soit entre les équipes qui s'occupaient de ma grand-mère à l'hôpital ou avec ceux qui devaient lui offrir du soutien à domicile. Résultat, les services dont elle aurait eu besoin n'ont pas pu arriver à temps. Et nous, si nous avions su, nous aurions pu nous organiser et l'aider autrement. Elle n'aurait même pas pu se rendre à la porte pour recevoir ses médicaments, ni même se rendre à sa cuisine pour manger un peu ou se prendre un verre d'eau. On ne veut pas blâmer qui que ce soit, mais quand on regarde tout ça, on ne peut pas s'empêcher de voir que certaines choses n'étaient pas prêtes. La communication n'a pas toujours été là. Puis les nouveaux médicaments ont peut-être eu des effets qui n'avaient pas été prévus puis qu'on ne connaissait même pas. Ce sont toutes ces petites failles qui, mises ensemble, ont peut-être mené à ce qui est arrivé à grand-maman.
Donc, la petite fille vient de mettre en évidence des lacunes en matière de communication. Et là, je me permets de poser la question, Nadia, est-ce que la famille aurait pu être impliquée davantage pour le retour à domicile?
J'irais plus loin, Julie, je dirais la famille aurait dû être impliquée. L'implication des proches dès le départ, c'est plus qu'essentiel. D'autant plus que la situation présentée, la famille semblait être très présente pour cette dame. L'usagère et ses proches devraient être bien informés du retour à domicile. C'est souvent eux qui vont assurer le filet de sécurité nécessaire dans les premières heures ou même parfois les premiers jours qui suivent le retour à domicile. Au-delà de les informer du retour, l'important, c'est aussi d'aborder tous les risques, ont-ils été bien informés des moyens à mettre en place pour les minimiser? Est-ce que ces informations sont écrites ou nommées dans un langage clair et compréhensible pour eux? Est-ce qu'on a pris le soin de valider leur compréhension? Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce qu'on a pu apporter les réponses à leurs questions? A-t-on validé leur disponibilité? Dans notre histoire, tout ceci aurait assurément pu contribuer à éviter ou du moins minimiser la survenance de cet accident. On reparlera un peu plus loin des facteurs de risque. Cela m'amène aussi à parler du transfert d'informations lors des points de transition. Par exemple, lorsqu'on complète une fiche de communication pour les soins à domicile, ça ne doit pas se réduire uniquement à remplir un formulaire. La fiche doit contenir des données pertinentes sur les risques identifiés et s'assurer que tous les acteurs concernés soient bien informés. Malheureusement, c'est un constat que dans certaines situations qui nécessitent une investigation, on voit bien que la fiche de communication a été complétée et envoyée, mais que son contenu est parfois peu pertinent ou carrément incomplet. Aucune trace des risques détectés pendant l'hospitalisation ni des moyens à mettre en place pour le minimiser. En somme, l'hospitalisation ne doit pas être considérée comme une fin en soi. Le retour à domicile fait partie intégrante de la continuité des soins.
Comme Nadia le nomme, le retour à domicile, c'est pas une fin en soi, c'est une continuité dans l'épisode de soins d'un usager. Puis, je vous rappelle l'importance du rôle de l'infirmière dans son rôle de protection de l'usager, justement, pendant cette transition-là, de son rôle d'advocacy. L'infirmière occupe souvent une place pivot, voire centrale, dans la coordination des soins lors des retours à domicile. C'est généralement elle qui va assurer la circulation de l'information et le suivi. Outre la fiche réseau, c'est elle qui va souvent s'assurer de veiller à ce que les filets de sécurité soient bien en place lorsque l'usager va retourner à domicile. Par exemple, comment ça peut se représenter par certaines actions de l'infirmière? Bien, ça pourrait être, par exemple, un appel direct aux soins à domicile au niveau du CLSC pour confirmer que la prise en charge suite au congé donné un vendredi après-midi va vraiment être prise en charge le samedi et non pas le lundi matin. Ou encore, par exemple, par une relance auprès de la travailleuse sociale afin de garantir la continuité de service. L'aviser que l'usagère a quitté et valider que les interventions que la travailleuse sociale a mises en place vont vraiment l'être. L'infirmière doit aussi prendre le temps de discuter avec la personne et les proches avant le départ pour connaître leurs plans, d'entendre leurs préoccupations et de répondre à leurs questions. Au besoin, elle peut aussi se référer à la personne, à ses proches ou à un autre professionnel qui est en mesure de les guider, de les soutenir. Les enjeux de communication sont très souvent et malheureusement la source première des événements indésirables. Puis ça, on le voit dans la littérature, mais on le voit aussi dans les événements qui nous ont été rapportés. Pas juste dans cet événement-là avec le coroner, mais dans plein de situations avec d'autres coronaires ou des événements indésirables à l'interne qui n'ont pas été pris en charge par les coroners parce que les usagers n'en décèdent pas toujours.
Quand la madame de l'hôpital nous a appelés pour faire le suivi après le décès de grand-maman, elle nous a demandé si on avait été informé que suite à sa fracture de hanche, elle était plus à risque de tomber à nouveau. Puis avec ses nouveaux médicaments pour sa haute pression puis sa douleur, ça aidait pas non plus. On a entendu pas mal de choses pendant nos visites à l'hôpital, mais on a été obligé d'admettre que, ben non, on n'avait jamais entendu parler de ça. On aurait peut-être dû poser plus de questions, mais en même temps, on voulait pas déranger.
On voulait pas déranger. C'est quand même toujours malheureux d'entendre ça de la bouche des personnes qui sont probablement les mieux placées pour nous informer, c'est-à-dire les proches. D'ailleurs, je vous invite pour ceux et celles que c'est pas déjà fait à aller écouter l'épisode 3 de cette deuxième saison du balado concernant les personnes proches aidantes. Mais pour en revenir à notre histoire, comme la petite fille le mentionne, et vous en avez un peu brièvement parlé aussi, il y avait clairement présence de plusieurs facteurs de risque pour cette dame-là. Et si on tient compte vraiment de l'histoire, là, quelles auraient été les stratégies de prévention qu'on aurait pu mettre en place pour les prévenir, Nadia?
En fait, il faut constater que plusieurs des facteurs de risque présents dans cette histoire, comme le risque de chute, la sécurité à domicile, le transfert d'informations essentielles au point de transition, le bilan comparatif des médicaments, sont tous en lien avec des pratiques organisationnelles requises, reconnues par Agrément Canada. On rappelle que les gestionnaires ont la responsabilité de s'assurer que leur secteur est conforme à ces bonnes pratiques et d'assurer une vigie de leur mise en place. Pour répondre plus précisément à ta question, Julie, sur les stratégies de prévention, bien, tout commence et on le répète, par une bonne préparation du congé et des communications efficientes, c'est-à-dire la bonne information aux bonnes personnes au bon moment.
Et concernant les facteurs de risque, Frédéric, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça?
Dans notre situation, comme Nadine l'a mentionné, il y a plusieurs facteurs de risque. La mobilité réduite, la nouvelle médication, ses effets secondaires, le risque de chute de l'usager qui était connu. Ça doit être détecté, mais ça doit être aussi considéré, pas seulement pendant l'hospitalisation, mais aussi au moment de la planification du congé. Est-ce que ce risque de chute-là va être maintenu après l'hospitalisation? Est-ce que c'était juste un élément qui était sporadique, qui est arrivé pendant l'épisode de soins? Bien, ça doit être analysé. Puis ça doit être analysé avec la mise en place de ressources humaines, matérielles, environnementales, qui vont être appropriées à la situation pour mieux gérer le risque. Autant qu'on essaie de bien le gérer pendant l'épisode, il faut aussi le considérer après l'épisode de soins. Sinon, cette dame-là, bien, elle va peut-être retomber à la maison puis elle va se retrouver encore à l'urgence pour la même chose.
Comme c'est le cas dans notre histoire, oui.
Donc, on doit considérer le risque à la planification du congé de manière interdisciplinaire, parce que ce n'est pas juste un risque qui est propre aux soins infirmiers. Il y a différentes ressources professionnelles qui sont interpellées aussi par ou qui doivent se sentir interpellées par rapport à ce risque-là. Pour la planification du congé, il faut qu'elle soit considérée de manière interdisciplinaire. C'est pas une activité qui est propre à une discipline professionnelle. C'est pas l'histoire des infirmières, c'est pas l'histoire des physiothérapeutes ou des ergothérapeutes. C'est propre. Ça doit être une préoccupation pour l'ensemble des disciplines. L'ensemble des disciplines qui ont été considérées durant l'hospitalisation de cette dame-là. Avant de laisser partir la personne pour le congé définitif, il faut s'assurer, il faut se poser des questions. Est-ce que l'ensemble des mesures ont été mises en place pour assurer la sécurité de cette dame-là?
Ça me faisait penser, quand on avait des usagers justement qui avaient subi là, des trachéostomies, c'était pas rare là, que je me permettais d'appeler directement le CLSC pour parler avec l'assistante ou avec l'inhalothérapeute pour informer des besoins particuliers, savoir s'il allait avoir des enjeux de matériel, assurer aussi les échanges avec les inhalos au niveau intra-hospite, prendre un temps aussi avec l'usager et son ou sa conjointe là, pour consolider les apprentissages puis valider s'il y avait des questions avant le départ.
Il faut rapporter les facteurs de risque soulevés et les moyens à mettre en place pour éviter leur récurrence, de façon à pouvoir mettre en place le filet de sécurité nécessaire.
Donc, dans notre exemple, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en place, par exemple?
Bien, en fait, on aurait pu mettre en place plusieurs choses. Considérant le risque de chute et le besoin de suivi de la mobilité, on aurait pu s'assurer qu'une physiothérapeute à domicile a été ajoutée au dossier, puis rassurer la famille à cet effet-là. On aurait pu aussi s'assurer que l'usagère comprenne bien ce qui est un contrôle optimal de la douleur et lui indiquer, à elle et à ses proches, les principaux effets secondaires à surveiller. Un autre exemple, ça aurait été de s'assurer qu'il y a peut-être une évaluation nutritionnelle qui peut être faite au départ de l'usagère. On sait que le risque de dénutrition chez la personne âgée, ça peut être associé à une perte de force, puis c'est sûr que si on a moins de force dans nos jambes, bien, on est plus susceptible de tomber. Sinon, l'adaptation de l'environnement en prévision du congé et non au moment même. C'est sûr que s'il y a des barres d'appui à être installées, un siège de toilette avec une douche adaptée, on ne peut pas faire ça en l'espace de quelques minutes. Là. Ça doit être considéré avant le départ. Puis l'environnement physique de l'usagère doit être prêt au moment où celle-ci va arriver. Puis dans le même sens, bien, c'est sûr que si on adapte l'environnement physique par des installations matérielles, des installations physiques qui vont être permanentes, bien, il y a aussi des équipements de mobilité qui peuvent être ajoutés à cet environnement-là pour notamment faciliter les déplacements entre les pièces.
Je pense toujours à l'utilisation de la marchette là, ou des ambulateurs qui est souvent comme pris pour acquis, mais clairement que ça n'a pas été enseigné puis l'utilisation n'est pas toujours adéquate. Donc, c'est quelque chose qu'il faut veiller, là.
Tout à fait. Puis le risque dans tout ça, c'est que ça soit la famille puis l'usagère qui identifie eux-mêmes les équipements qu'ils pensent nécessaires. Fait qu'une usagère pourrait dire, ben moi, j'ai besoin de quelque chose, que j'ai besoin d'un appareil pour m'aider à me déplacer. Je vais choisir une canne, mais dans les faits, c'est peut-être une marchette que ça lui prend, là. Sinon, ben de vérifier la présence de proches. Ici, on sait que la dame avait de la famille qui était présente dans le cadre de son hospitalisation, mais est-ce que cette ces ressources-là vont être disponibles une fois de retour à domicile. Qui va s'en occuper? Est-ce que c'est sa fille? C'est son fils? Est-ce que ça va être le voisin qui va venir soutenir? Donc, il faut regarder cette prise en charge-là de la part des proches ou des personnes qui sont significatives auprès de l'usagère.
Oui, puis dans notre histoire, la voisine, justement, avait l'air quasi omniprésente, là, t'sais, donc, en effet, on aurait pu valider aussi cette opportunité-là, oui.
Finalement, ben, la présence de services communautaires, est-ce qu'elle était disponible? Donc, est-ce que cette dame-là avait besoin de soutien pour l'entretien ménager de son logement? Est-ce que le service alimentaire, on entend souvent le terme pas trop lente, là, mais est-ce qu'on aurait pu avoir accès à des services alimentaires pour soutenir le retour à domicile? La livraison de l'épicerie à domicile, sinon, c'est un service qui est de plus en plus offert, au même titre que la livraison de médicaments par les pharmacies. Donc, on voit qu'il y a plusieurs actions quand même qui auraient pu être mises en place pour assurer le filet de sécurité.
Oui, puis je peux pas m'empêcher de penser aussi au CHUS, donc de Sherbrooke, l'hôpital Hôtel-Dieu, le troisième étage qui est destiné à la clientèle post-opératoire, là, où les ASI vont faire une relance téléphonique 24, parfois même jusqu'à 72 heures après le retour à domicile auprès de la personne et parfois aussi ses proches. Et je peux pas m'empêcher non plus de parler du PTI, le fameux plan thérapeutique infirmier qui sert à inscrire des directives cliniques qui sont nécessaires à la continuité des soins. Donc, on devrait toujours faire suivre un PTI bien complété de façon pertinente au CLSC parce que ça demeure un outil de communication écrit probablement le plus efficace. Et là, pas juste d'un point de vue légal, parce que lorsqu'il est bien utilisé et qu'il contient les données pertinentes, là, ben, clairement que ça va faire foi de la qualité de l'acte professionnel en matière de continuité et de suivi des soins.
Julie, tu parles de PTI, mais c'est bien de documenter les informations dans un dossier papier qui va être informatisé, qui va suivre l'usagère tout le long de son épisode puis qui va servir aux professionnels. Mais il ne faut pas oublier non plus de parler aussi des risques qui sont présents dans ces PTI-là directement avec l'usager puis les proches. Puis ça, c'est souvent quelque chose qu'on ne pense pas, mais on va le documenter, on va très bien documenter ça dans un document légal, mais après coup, on n'est plus au dossier. Fait que qui repart avec l'usagère, qui va s'occuper de la suite des choses après notre épisode de soins, ben c'est souvent les familles puis les usagers eux-mêmes qu'il va falloir qui s'impliquent directement dans leurs soins. Donc, je pense que c'est important d'avoir une discussion qui est quand même ouverte avec l'usager pour leur présenter un peu les risques que nous, on a identifiés puis peut-être leur donner des stratégies sur comment prendre en charge ces risques-là de leur côté pour mieux les outiller à l'épisode qui est quand même majeur, qui est après l'hospitalisation. Ben, l'hospitalisation dans la vie de quelqu'un, c'est très court comme temps, là. Les usagers vont passer beaucoup plus de temps à domicile que dans un milieu hospitalier.
Surtout, c'est très prédictif. Hein. On le sait qu'une personne qui a fait une chute dans les 12 derniers mois, la chance, ou plutôt la malchance qu'elle refasse une chute dans les mois qui suivent est quand même très, très élevée.
Il y a plusieurs stratégies qu'on aurait pu utiliser pour mieux guider l'usagère et les membres de sa famille avant le congé. On aurait pu les guider dans la façon de comment se déplacer, se lever tranquillement, d'avoir une démarche adaptée, comment mieux utiliser les accessoires de marche qui sont à notre disposition, que ce soit les marchettes, la canne pour certains. Des fois, ça peut être aussi banal que d'avoir les bons accessoires aussi, là, d'avoir une paire de souliers qui est bien attachée, qui supporte bien le pied. Ben, ça fait partie de mécanismes simples qui semblent parfois banals, mais quand on voit à domicile, des fois chez les usagers, ben, on peut se rendre compte qu'ils se promènent dans des crocs dont le talon n'est pas supporté puis qui peut les amener à tomber. Sinon, il y a d'autres stratégies qu'on voit de plus en plus qui sont peut-être associées aux nouvelles technologies. Ben, je ne sais pas si c'est des nouvelles ou des vieilles technologies. Là. Anciennement, des fois, on voyait nos grands-parents porter des bracelets style ambulance Saint-Jean là, où on pouvait cliquer sur notre poignet puis ça pouvait appeler directement un service là, pour dire qu'on avait besoin d'aide. Mais à cette heure, avec les appareils connectés, je pense qu'il y a de nouvelles technologies.
Détecteur de chute au cou ou au poignet, là, comme avec certaines marques, là, sans la nommer, Apple. Ils ont le détecteur de chute intégré aussi, oui.
Des stratégies qui semblent plutôt banales et à coup nul, mais comment on peut assurer une présence peut-être plus grande de la part des proches ou du réseau social pour venir valider auprès de nos voisins, auprès de la personne qui vient de recevoir congé, si tout fonctionne bien. Là, ça peut être quand même assez efficace comme stratégie.
Puis avec tout ce que tu viens de nous dire aussi, je crois qu'il ne faut surtout pas oublier une chose, puis on le répète, c'est de valider la compréhension de la patiente et de sa famille, de jamais présumer que tout le monde sait. On l'a nommé tantôt, les ruptures de communication, par exemple entre l'hôpital et les ressources communautaires, c'est malheureusement trop fréquent. Alors, de penser que l'information circule d'elle-même, c'est une grave erreur. Une communication qui est incomplète, qui est peu efficace ou carrément qui est absente plutôt, peut malheureusement mener à ce genre de situation-là.
Donc, si on résume, Julie et Frédéric, un retour à domicile sécuritaire exige une préparation précoce qui tient compte des besoins et des facteurs de risque. Ça exige une coordination étroite entre tous les professionnels présents, infirmières, physiothérapeutes, ergothérapeutes, pharmaciens, travailleurs sociaux, médecins, internes, externes, qui transigent par des communications efficientes et surtout une implication active de l'usager et de ses proches. Cette situation, même si elle est fictive, est malheureusement trop présente et des moyens existent pour tenter de les éviter.
Ça fait plusieurs mois que grand-maman est décédée. Même si c'est encore très difficile, ça nous rassure quand même de savoir qu'une analyse a été faite puis des recommandations ont suivi. Pour nous, c'est important de voir que cette épreuve a servi à améliorer les choses, qu'on a fait quelque chose avec ce qui est arrivé. Le fait de boucler la boucle puis de nous partager ces informations-là, ça nous aide à garder confiance dans le système puis à voir qu'il y a des efforts qui sont faits pour que d'autres patients aient des soins plus sécuritaires.
Donc, qu'est-ce que tu aurais un peu à nous dire, Nadia, pour conclure là, brièvement cet épisode-là?
Ce que mentionne la petite fille de notre usagère, elle vient de souligner l'importance de la divulgation. Non pas dans un but de trouver des coupables, mais tenter de comprendre ce qui a pu bien se passer et pour apprendre de tout ça. Il faut mettre en place des stratégies de prévention et c'est souvent là, par un événement, que tout commence et notre analyse mène vers un processus d'amélioration continue.
Frédéric?
L'élément que Nadia amène en termes d'amélioration continue, c'est la posture que l'on devrait tous adopter comme professionnels. Un peu comme les coronaires qui se mettent pas dans l'optique de trouver des coupables ou de trouver des responsables, c'est pas l'objectif qu'on devrait avoir comme professionnel. C'est d'éviter la récurrence des événements. Puis pour éviter la récurrence des événements, ça nous amène à nous mettre dans une posture où on le doit de bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans un événement. Puis trop souvent, c'est qu'on a une lecture en silo des événements. On regarde avec nos lunettes uniquement d'infirmières, qu'est-ce qui n'a pas été fait correctement par rapport aux soins infirmiers. Puis, c'est là que, comme organisation, on doit apprendre à peut-être mieux travailler ensemble, à regarder, oui, peut-être dans lunettes d'infirmières, dans nos lunettes de physio, de médecins, d'ergothérapeutes, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, mais ensemble, qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça se reproduise. La situation ici nous a fait la démonstration que c'était pas. Il y a plusieurs facteurs de risque qui se sont. Il y a plusieurs facteurs de risque, mais il y a plusieurs événements qui se sont entrechoqués, puis qui a fait que cette dame-là, finalement, a subi les conséquences de ça.
Bien, je te remercie beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup aussi à vous, Nadia.
Merci.
Merci.
Nouveauté, développement, accomplissement. Quoi de neuf à la DSI?
En octobre dernier, la Direction des soins infirmiers a lancé une nouvelle formation qui est destinée aux gestionnaires et qui est centrée sur la culture de sécurité. Cette initiative répond à un besoin exprimé par les ASI à la suite de la formation qui leur est offerte sur ce même thème dans le programme de développement qui leur est dédié. Intitulée « Ancrer la culture de sécurité, une responsabilité partagée », cette formation vise les gestionnaires ainsi que les coordonnateurs des directions cliniques du CIUSSS Lestrichu qui ont des ASI au sein de leur équipe. Elle s'appuie sur les données probantes, les pratiques exemplaires en matière de culture de sécurité et des expériences concrètes sur le terrain. Elle fait désormais partie du programme de formation offert par le service au cadre d'établissement. D'une durée de 7 heures, elle est offerte en présentiel. Elle favorise les échanges et soutient le co-développement. Après les premières séances réalisées cet automne, d'autres dates sont prévues en 2026. Alors, gestionnaire à l'écoute, restez à l'affût. Donc, remerciements sincères à nos invités, Nadia et Frédéric, de même que, vous l'avez peut-être reconnu, ma co-animatrice Sophie Martin, qui a bien voulu porter la voix de notre petite fille dans l'histoire. Alors, c'est ce qui termine officiellement cette deuxième saison du balado Savoir et Stéthoscope. À la prochaine!
Le balado de la Direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu, Savoir et Stéthoscope, est produit et réalisé entièrement par l'équipe de la DSI. Ce balado a été enregistré et monté dans les studios de CEFAC 88.3 à l'Université de Sherbrooke. Merci à eux. À la prochaine pour plus de Savoir et Stéthoscope.